VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 18h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien s'est réuni pour discuter du mouvement de colère des militaires qui a déjà fait 4 morts et menace de dégénérer en une révolte généralisée. Les autorités se disent déterminées à rétablir l'ordre. Sur le terrain, retour au calme à Yamoussoukro où 2 mutins ont été tués hier. Mais de nouveaux tirs ont été entendus ce matin à Abidjan et aussi à Bouaké, épicentre de la mutinerie. À Abidjan, ce sont des gendarmes qui ont tiré en l'air pour appuyer leurs revendications. Les détails avec notre correspondante sur place, Narita Namatse.
Depuis ce matin, des nouveaux tirs ont été entendus. Cette fois, c'est du côté sud d'Abidjan, dans la zone portuaire d'Evrébi, qui se situe dans la commune de Port-Boué. Des gendarmes tiraient en l'air et demandaient à la population de rentrer chez elle et demandaient aux commerçants de quitter les lieux. Leurs collectifs ont duré au moins 2h, 2h30. Autour de 10h, au camp pénal de Bouaké, des tirs également se sont fait entendre jusqu'au niveau du commerce de centre-ville de Bouaké. Nous avons appris, nous n'avons pas vraiment vérifié l'information, nous avons appris qu'il y a eu échange de tirs entre les mutins et les gardes pénitentiaires qui s'est soldé par 4 blessés par balle. Narita Masque, VOA Afrique, Abidjan.
Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé un deuil national de 3 jours à la suite de l'attentat de ce mercredi à Gao dans le Nord, le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Son ministre de la Défense, Abdoulaye Idrissa Maïga, doit se rendre aujourd'hui dans la grande métropole du Nord malien. La cible de l'attaque de ce matin était le camp militaire du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination situé sur la route de l'aéroport. Le point avec Boubacar Touré, notre correspondant à Gao.
C'est un véhicule bourré d'explosifs qui est parvenu à s'introduire dans le camp. Le sergent-chef Idrissa Maïga, un des blessés de cette attaque meurtrière.
Ce matin, à notre grande surprise, on était en réunion en désignation des éléments de garde. Quand un véhicule subitement, il a tapé la grande porte, on a essayé de l'arrêter, il a refusé de s'arrêter. Il a passé en toute vitesse, il criseur jaune. Il y a une seule personne là-dedans, on n'a pas pu l'identifier parce que lui, il est mort. Il y a eu beaucoup de morts et puis beaucoup de blessés.
D'aucuns parlent d'une 50aine de morts, d'autres affirment que les morts dépassent la 60aine. Les blessés couchés à l'hôpital se comptent par dizaines. Le personnel de l'hôpital a fait appel aux secouristes du CICR, de l'école des infirmiers pour leur assistance médicale. Le camp du MOC regroupe quelques 600 hommes de la plateforme de la CEMA et de l'armée malienne. Des hommes qui se préparent pour la patrouille mixte qui doit sécuriser le nord du pays. Pour l'instant, cette attaque meurtrière n'est pas encore revendiquée. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Nigeria, les opérations de secours restent extrêmement difficiles ce mercredi dans le nord-est du pays où l'armée de l'air nigériane a bombardé par erreur mardi un camp de déplacés à Ran dans l'état du Borno. On estime que 70 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés, dont 6 volontaires de la Croix-Rouge locale, affirme le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. L'organisation des évacuations et des premiers secours représente un défi dans cette région isolée, proche de la frontière du Cameroun, où sont toujours retranchés de nombreux combattants du groupe islamiste Boko Haram. Crise en Gambie, 1 million de touristes évacués du pays après la décision du président sortant gambien Yahya Jammeh de décréter l'état d'urgence, ce qui fait craindre des violences. Au pouvoir depuis un coup d'état il y a 22 ans, Yahya Jammeh refuse de céder la place au président élu Adama Barrow malgré sa défaite à la présidentielle de décembre. Le Nigeria et les autres pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, prépare une intervention militaire pour le forcer à quitter le pouvoir le 19 janvier, comme le veut la constitution gambienne. M. Barrow se trouve actuellement au Sénégal. Il pourrait être investi comme président à l'ambassade de Gambie à Dakar, qui est techniquement en territoire gambien.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, l'ONU a déclaré ce mercredi à Kinshasa n'avoir recueilli aucune information fiable sur une éventuelle incursion dans l'est du pays d'ex-rebelles congolais du mouvement du 23 mars, le M23, actuellement exilé en Ouganda. Le gouvernement congolais avait fait état dimanche d'une incursion d'environ 200 ex-combattants du M23 à Ishasha, localité proche de la frontière ougandaise. Accusation rejetée par Kampala qu'il avait qualifiée de fruit de l'imagination des autorités congolaises. Le colonel Félix Prosper Bass, porte-parole de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, a dit aujourd'hui n'avoir aucun indice pouvant confirmer la présence d'éléments du MV-23 en RDC. Actualité américaine maintenant, dans deux jours, le 20 janvier, Donald Trump sera investi 45e président des États-Unis. Un des principaux défis du milliardaire républicain sera d'équilibrer les promesses de campagne qu'il a faites à ses partisans, tout en prenant des mesures pour guérir la nation après une campagne particulièrement rude. Une analyse de notre collègue Jim Malone, reprise ici par Claire Morin-Gibault.
The president-elect of the United States of America, Donald Trump.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump.
L'étonnante victoire électorale de Donald Trump semble encore un rêve pour certains de ses partisans et il a rapidement parlé de réconciliation dans son discours de victoire.
Je dis qu'il est temps pour nous de nous unir comme un seul peuple.
Mais la victoire de Trump a été marquée par des protestations dans tout le pays, de l'Oregon et de la Californie dans l'Ouest, dans sa ville natale de New York et dans le Massachusetts à l'Est du pays. Écoutons une manifestante anti-Trump.
Je suis déçue, il me fait peur.
Il y a également eu des incidents d'intimidation post-électorale ciblant les minorités et les musulmans. Une question sur laquelle Trump a été interrogé lors d'une interview pour l'émission 60 Minutes de la chaîne CBS.
Je suis tellement attristé d'entendre cela et je dis arrêtez.
Réduire la fracture politique est aussi une préoccupation pour le président Barack Obama.
Il est vraiment important d'essayer d'envoyer des signaux d'unité et d'atteindre les groupes minoritaires ou les femmes ou d'autres personnes qui étaient préoccupées par le contenu de la campagne.
Trump a annoncé les principales nominations de son gouvernement, dont le président du Parti républicain, Reince Priebus, et Stephen Bannon, un journaliste très controversé à droite, comme son principal conseiller politique. Le premier test important pour Trump est la composition de son futur gouvernement, dit John Fortier, qui travaille pour un centre bipartisan spécialisé sur les politiques américaines.
Le processus de recrutement d'un gouvernement est important en Amérique et comme c'est un candidat à part, il n'a pas les connexions traditionnelles, ce que les cadres traditionnels d'une administration auraient.
Mais la capacité de Trump à réussir une unité nationale a plus à voir avec le ton de sa rhétorique, selon Molly Reynolds de l'institution Brookings.
Nous avons l'image de Trump que nous avons vu sur les routes lors de la campagne, et puis nous avons une version légèrement plus posée de Trump que nous avons vu émerger de temps en temps. Et la question de savoir si cette facette, qui est apparue si peu au cours de la campagne présidentielle, sera celle qu'il montre quand il arrivera à la Maison Blanche. Nous ne le savons pas.
Trump continue d'annoncer les membres de son cabinet. Ses choix donnent déjà le ton qu'il a choisi pour mener sa présidence.
À noter que le président sortant américain Barack Obama tient aujourd'hui sa dernière conférence de presse en tant que président du pays. Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 au Gabon. Deuxième journée dans le groupe A ce mercredi à Libreville. Les détails avec notre envoyé spécial à la CAN, Timothée Donangmaï.
Rien n'est joué dans ce groupe A ici à Libreville où les quatre équipes ont procédé à un partage de points en première journée à la faveur de deux matchs nuls. La deuxième offre l'occasion de se démarquer et en premier match ce soir, le Gabon croise le fer avec le Burkina Faso. Les Panthères gabonaises n'ont pas vraiment convaincu le 14 janvier dernier lorsqu'elles ont laissé filer l'occasion d'engranger trois points face à une équipe bissau-guinéenne qui fait ses débuts à la CAN et qui manquait visiblement d'expérience. Contre les étalons du Burkina Faso, la tâche ne sera pas facile, même avec le soutien du public gabonais. Après le nul du Burkina face au Cameroun, le coach burkinabé Paulo Duarte avait dit que ses attaquants n'avaient pas tout à fait compris sa stratégie. Aucun doute qu'il a fait quelques ajustements pour rectifier le tir ce soir. En second match, Cameroun-Guinée-Bissau, trois points presque assurés pour les Lions indomptables. Mais attention, les Licaons bissau-guinéens ont probablement tiré les leçons de leur match nul contre le Gabon et pourraient donc se montrer beaucoup plus entreprenants ce soir. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
VOA Afrique.